Ce matin, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Comme vous le savez, notre thème, c'est vivre le surnaturel, naturellement. Alors moi, à ce qui me concerne, le sous-thème que j'aimerais partager avec vous est intitulé « Conditions à remplir pour vivre le surnaturel ». J'aimerais parler de quelques conditions que nous devons vivre, que nous devons accomplir pour expérimenter le surnaturel. Avec votre autorisation, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 9 à 13. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 9 à 13. Non, c'est 8, je m'excuse, c'est 8. C'est Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, homme et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Alors, pour que nous ayons tous la même compréhension de surnaturel, le terme surnaturel, je me suis permis d'abord de pouvoir définir le terme surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles, qui dépasse l'expérience humaine. Le surnaturel, c'est tout ce qui se situe dans le domaine du miraculeux, dans le domaine du miracle. Pour moi, j'estime que c'est important que je commence par là pour que nous puissions comprendre le terme surnaturel. Le surnaturel, c'est les manifestations qui échappent au pouvoir et au contrôle de la nature. Bref, le surnaturel peut être désigné par le terme miracle, peut être désigné par le terme puissance, peut-être désigné par le terme prodige, peut-être désigné par le terme acte étonnant ou signe, que sais-je encore. C'est par rapport au texte que nous avons vu, il y avait des miracles qui s'opéraient. Alors, permettez-moi, si j'utilise le terme miracle, puissance, donc je vais parler de surnaturel. Le surnaturel, c'est vivre le ciel sur la terre. Nous devons vivre le ciel sur la terre. Le surnaturel, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu sur la terre. Le surnaturel, c'est expérimenter la puissante main de Dieu dans notre vie. C'est ça, le surnaturel. Alors, si on peut laisser le texte que j'avais mis tout à l'heure, parce que je ne suis pas encore entré dans mon texte. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. Le surnaturel peut venir soit du royaume de Dieu, soit du royaume de Satan. Le texte que nous voyons là tout à l'heure, la Bible nous parle de Philippe. Philippe, c'était un serviteur de Dieu. Philippe, c'était un apôtre de Dieu, un homme de Dieu. La Bible dit, Philippe leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Ils voyaient avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Philippe opérait les miracles. Nous voyons que le miracle que Philippe a opéré là-bas, c'est grâce à la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Il proclamait le nom de Jésus-Christ. Il parlait au nom de Dieu. Curieusement, Simon le magicien s'est converti. Nous voyons que Simon, nous parlerons de lui tout à l'heure. La Bible dit, Simon a cru à l'évangile. Alors, le miracle qu'il y avait, c'était le miracle de conversion. Parce que nous voyons des baptêmes qui se sont suivis par derrière. Donc, c'était le miracle de conversion. Mais je peux aller au-delà. Je ne crois pas qu'il y avait que des miracles de conversion. Je pense que ce jour-là, s'il y avait des sourds, ils ont entendu. S'il y avait des paralytiques, ils ont marché. S'il y avait des aveugles, ils ont recouvert la vie. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais bien aimé, Simon le magicien crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Le miracle opéré par Dieu est toujours supérieur au miracle opéré par Satan. La Bible nous parle de Moïse en face de magiciens. Moïse, il avait un bâton, le magicien, ils avaient aussi des bâtons. La Bible dit, ils ont fait leur grille, ils ont fait transformer leur bâton en serpent. Mais Moïse aussi, son bâton s'est transformé en serpent. Le serpent de Moïse, il a avalé tous les petits serpents. Le miracle opéré par Jésus, il est toujours supérieur. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est un Dieu de différence. Les magiciens doivent voir la différence. Les marabouts doivent voir la différence. On va continuer. Nous voyons que la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Simon le magicien, que j'ai déjà évoqué, qui était un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie par ses actes de magie. Ici, nous voyons qu'il le faisait grâce à la puissance de Satan. Oui, Satan opère aussi les miracles. Donc, les magiciens, les médiums, les astrologues, les enchanteurs, les occultistes, les satanistes, bref, les initiés, ceux qui pratiquent la divination, la méditation transcendantale, le spiritisme, le yoga, le voyage astro, etc., peuvent aussi opérer le surnaturel. D'ailleurs, Jésus nous met en garde en parlant de faux prophètes dans la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Au temps de Simon le magicien, il y a des gens qui lui ont fait confiance, qui ont dit, ça c'est vraiment la puissance de Dieu qu'on appelle la grande, alors que ça n'avait rien à voir avec les choses de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ont besoin de discernement. Mais ce n'est pas pour autant parce que le diable fait le miracle que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas faire le miracle. Non, le diable, lui, c'est un contrefaçon. Il copie. Le miracle, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Le miracle, c'est pour vous. Le miracle, c'est pour les serviteurs de Dieu. Amen. Nous devons aimer le miracle. Nous devons aimer le surnaturel. Je vais maintenant introduire mon enseignement, après cette définition, mes bien-aimés, quand nous étudions la vie d'homme ordinaire comme Abraham, la vie d'homme ordinaire comme Moïse, comme Élie, comme Daniel, comme Joseph, comme Pierre, comme Jean, comme Paul, comme Philippe, pour ne citer que ceux-là, nous constatons que tous vivaient dans la vie. Tous vivaient plutôt dans leur vie le surnaturel. Tous sans exception. Nous remarquons que le surnaturel est abondamment présent dans tous les livres de la Bible. Depuis qu'on m'a demandé de développer ce thème, quand je parcourais la Bible, partout je voyais le surnaturel au travers des Écritures. Cependant, lorsque nous observons nos propres vies, nous voyons que le surnaturel est rare, voire quasi inexistant. Le surnaturel semble également l'être de moins en moins dans la vie de l'Église, comme Claude le disait tout à l'heure, et de ceux qui confessent Jésus-Christ. Pourtant, nous savons que Dieu est un Dieu de miracles. Il en a toujours fait et il ne change pas. Est-ce que vous croyez qu'il ne change pas? Vous croyez qu'il est mort, il est ressuscité? Vous croyez qu'il est vivant? Le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu peut faire encore des miracles aujourd'hui. Sinon, notre raison d'être là n'a pas de sens. C'est parce que nous croyons au surnaturel. Et moi, je prêche Dieu surnaturel. Et moi, je crois que tous les hommes de Dieu qui sont là prêchent Dieu surnaturel. Dans Emma, nous croyons au surnaturel. Voilà pourquoi on a donné ce thème, vivre le surnaturel. Tous les pasteurs qui sont dans Emma croient sur le surnaturel. Ceux qui viennent s'ajouter à nous, ils sont obligés de nous suivre parce que nous croyons surnaturel. Alors, mes bien-aimés, pourquoi est-ce que nos églises ne vivent plus le surnaturel comme au temps des apôtres? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens prédicateurs, ne vivons plus le surnaturel? Pour répondre à ces questions, je pense que nous devons remplir certaines conditions pour vivre le surnaturel de Dieu. Et c'est là maintenant que je vais entrer dans le vif de mon sujet, en commençant par la première condition pour vivre le surnaturel. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Après avoir lu Matthieu 28, le verset 28, Matthieu 28, le verset 18 plutôt, nous sommes à présent dans Matthieu 4, le verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques et il les guérissait. Amen. Alors la première condition pour que nous puissions vivre le surnaturel, il faut avoir la révélation sur l'autorité de Jésus-Christ et la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons avoir la révélation sur l'autorité de Jésus-Christ et la plénitude du Saint-Esprit. Dans le premier texte, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus-Christ est la source de notre surnaturel. C'est lui qui est la source de notre surnaturel. Nous devons connaître son autorité, connaître son pouvoir. Alors, dans ce passage, remarquons qu'il n'a pas dit que j'ai seulement quelques pouvoirs. Jésus n'a pas dit j'ai seulement quelques pouvoirs. Il n'a pas dit non plus la plupart des pouvoirs. Mais Jésus dit c'est tout pouvoir qui m'a été donné. C'est tout pouvoir qui lui a été donné, c'est-à-dire tout lui appartient. Si on doit parler en termes de quantité, ça veut dire qu'il a tout le pouvoir. Est-ce que nous réalisons cela? Il a tous les pouvoirs sur quoi? Il a tous les pouvoirs sur la mort. Il a tous les pouvoirs sur les démons. Il a tous les pouvoirs sur la mort. Il a tous les pouvoirs sur la pauvreté. Il a tous les pouvoirs sur les célibats. Il a tous les pouvoirs sur les échecs. Il a tous les pouvoirs sur les déceptions. Il a tous les pouvoirs sur toute maladie. Est-ce que vous le croyez? ce ne sont pas des simples slogans, mais c'est une réalité. Et il faut que nous puissions croire. Nous ne devons pas nous arrêter seulement à parler, mais nous devons vivre cela. Il a tous les pouvoirs. Ce matin, je t'annonce que la puissance de Dieu est en ce lieu. La puissance de l'autorité de Jésus est en ce lieu. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Jésus est là pour te visiter. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu acceptes que Jésus vienne et qu'il opère dans ta vie. Amen. Mais bien-aimés, disons un mot sur Jésus. Sa naissance était surnaturelle. Son ministère sur la terre était surnaturel. Sa mort était surnaturelle. Sa résurrection était surnaturelle. Son ascension était surnaturelle. Son retour sera surnaturel. Alors, quelqu'un qui vit le surnaturel, pourquoi voulons-nous le mettre dans une boîte? Il faut qu'il opère, parce qu'il est vivant. C'est un Dieu de surnaturel. Nous devons vivre le surnaturel. Nous devons rêver le surnaturel. Mais bien-aimés, il est important que nous comprenions que nous ayons la révélation de l'autorité de Jésus-Christ et la plénitude du Saint-Esprit. Dans le deuxième passage que je vous avais donné, la Bible dit dans Matthieu, c'était Matthieu chapitre 4, le verset 24, la Bible dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Dans ce passage, nous voyons le but du surnaturel. Quelles sont les raisons pour nous de désirer le surnaturel? Nous désirons le surnaturel de Dieu, pas pour un gain matériel. Nous ne désirons pas le surnaturel, pas pour un besoin financier, loin de là. Nous ne désirons pas non plus le surnaturel de Dieu pour une quelconque renommée, pour une quelconque élévation, ou pour un quelconque honneur. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. En revanche, nous désirons le surnaturel de Dieu. Nous cherchons les miracles. Nous voyons que les miracles ont marqué le ministère terrestre de Jésus. C'était pour révéler sa puissance. Il faut qu'on voit que ce Dieu-là, il est puissant, que Jésus est puissant. Il cherche à révéler sa puissance. Il cherche à révéler sa bonté. Il cherche à révéler sa miséricorde. Il cherche à révéler la bienveillance et la compassion de Dieu envers les êtres humains. C'est ça le but de surnaturel. Il cherche à manifester aux yeux de tous que Jésus était réellement fils de Dieu. Les miracles sont utiles, mes bien-aimés, dans la mesure où ils glorifient Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette optique-là que nous poursuivons les miracles. Dieu utilise sa puissance miraculeuse pour secourir ceux qui l'invoquent. Nous sommes là pour l'invoquer. Nous sommes dans les besoins. Nous voulons voir sa main puissante se manifester au milieu de nous. Le surnaturel attire les gens. Quand le magicien opérait le miracle, Simon le magicien, la Bible dit, cela étonnait tout le monde, du plus grand au plus petit. Nous voulons que nos églises soient remplies. Il faut le surnaturel. Parce que si c'est pas quelque chose de surnaturel, on va manquer de la place pour mettre les gens ici. Le surnaturel attire toujours. Jean-Baptiste était dans le désert, mais il parlait avec autorité. Les gens quittaient les lieux où ils allaient pour aller dans le désert. Il y avait une puissance qui les attirait. Parce que la parole de Dieu était prêchée avec puissance et autorité. Amen. Oui, mes bien-aimés, je disais tantôt qu'il suffit qu'il se produise quelques événements sortant de l'ordinaire pour que le foule se précipite. Les gens sont sensibles au surnaturel. Il est préférable que ce soit la manifestation de la puissance de Dieu qui attire et non la manifestation de Satan, de la puissance de Satan. Donc le surnaturel de Dieu concourt à glorifier Dieu, à secourir l'homme dans ses besoins et contribue à l'expansion de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons que ma puisse aller de l'avant. Il faut que nous puissions chercher le surnaturel, que Dieu se manifeste. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11, la Bible dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Le nom de Jésus-Christ fait fléchir toute difficulté. Le nom de Jésus-Christ fait fléchir toute opposition, toute puissance de l'ennemi. Et ce nom-là, nous l'avons ce matin. Et ce nom-là, nous le confessons jour et nuit. Et ce nom-là se promène avec nous tous les jours. Nous devons voir la puissance de ce nom-là. Nous ne pouvons pas porter le nom de Jésus, mais sans expérimenter ce que ce nom vaut. C'est un nom puissant. Toute langue confesse devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit, c'est ce que nous avons lu. Alors, mes bien-aimés, dans Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Le verset 17 et 18, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. » Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Les choses que Jésus a créées sont dans les cieux et sur la terre. Quand la Bible parle de trône, dignité, celle-ci se rapporte aux hiérarchies du monde spirituel et à celle de ce monde terrestre. Jésus-Christ doit être la tête de l'Église, comme Claude l'a si bien dit tout à l'heure, c'est lui qui doit bâtir l'Église. Nous voulons vivre le miracle dans nos églises. Laissons Jésus élevé, que nous puissions croître, diminuer plutôt. Qu'il croisse et que nous puissions diminuer. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre pour que les gens soient sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui guérit. C'est un nom qui transforme. C'est un nom qui opère les miracles. C'est un nom qui change le cœur incrédule en cœur de chair. Et ce nom-là, c'est le nom que nous confessons. Je ne peux pas concevoir que nous nous retrouvons tels que nous sommes là. La Bible dit, deux ou trois réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux et qu'il ne se passe rien. Mais est-ce qu'il est vivant ou il est ressuscité mort? Est-ce que le Dieu que nous servons, il est réel ou c'est un Dieu mort? Depuis le début, quand on a commencé à chanter ici, je vis la présence, la gloire de Dieu. J'ai compris que Dieu est là ce matin. Parce qu'on a déjà commencé à prophétiser concernant le miracle. Nous devons vivre le miracle. Nos ministères doivent changer. Parce que c'est un Dieu de miracle. Alléluia. C'est Jésus qui bâtit l'Église et non un homme. C'est lui qui doit diriger. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Avant de passer à la deuxième condition, disons un mot sur le Saint-Esprit. Parce que dans le premier point, il faut connaître la révélation de Jésus-Christ et la plénitude du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Vous serez mes témoins à Jérusalem. On reçoit la puissance, non pas pour croiser les mains. Malgré qu'ils ont été formés, ils sont restés 3 ans et demi auprès de Jésus. Mais Jésus leur a dit, n'allez pas encore jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Si vous lisez la Bible, toutes les fois que les apôtres étaient remplis, il se passait quelque chose. C'est le même esprit que nous avons. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance. Personne ne peut se convertir s'il n'est pas touché par la puissance de Dieu. Si Philippe avait de l'impact, c'est parce que les gens voyaient les signes, les prodiges, les miracles. Passons maintenant à la deuxième condition. Pour que nous puissions vivre le surnaturel, il faut que nous puissions connaître notre identité et ce qui en découle. Connaître son identité et ce qui en découle. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. La Bible nous parle de Paul. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Un enfant de Dieu ne doit pas se limiter à la seule connaissance de Dieu. C'est bien de connaître Dieu. Mais il doit aussi connaître ce qu'il est devenu en Jésus-Christ et ce qui en découle. Vous devez connaître votre identité, ce que nous sommes devenus en Jésus. Nous voyons dans le deuxième passage où alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Quelle conviction! Il savait ce qu'il avait reçu. Il savait ce qu'il était devenu avant de rencontrer le Seigneur et après avoir rencontré le Seigneur. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai reçu, je te donne. Lève-toi au nom de Jésus. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Quand on reçoit Jésus, quand on est de nouveau, on reçoit quelque chose. Et c'est cela que nous devons donner. C'est ce que les gens attendent de nous. Paul savait ce qu'il a reçu. Il dit, ma prédication ne se repose pas sur les beaux discours, ne se repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Alors, mes bien-aimés, dans le deuxième passage plutôt, qui est le premier, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Nous voyons dans ce passage les avantages liés à notre identité. C'est quoi le statut d'enfant de Dieu? C'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est l'autorité qui en découle. Et c'est ce que nous devons exercer. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce que nous avons reçu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra venir. Il dit, allez guérissez les malades. Cirrhose de foie, diabète, infection pulmonaire. Les malades ont besoin de nous. Les malades ont besoin de toi. Parce que tu as reçu le pouvoir et mandat. Tu dois l'exercer. Si nous ne l'exerçons pas, il n'y aura personne qui le fera à notre place. La Bible dit, Jésus ayant appelé les 12, il dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Allez! Si nous n'allons pas, Jésus ne fera rien. Il faut que nous exerçons cette autorité-là. Nous devons avoir l'audace de prier pour les malades. Nous devons avoir l'audace de prophétiser. Nous devons avoir l'audace d'annoncer à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Jean chapitre 3, verset 6 à 8. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. Et je le confirme encore ce matin. En tant qu'Esprit, nous sommes appelés à évoluer dans le surnaturel. L'Esprit est sans limite. Jésus-Christ savait son identité. Et pour s'assurer que les gens connaissaient son identité, il a dit, il leur a posé la question, « Que dites-vous que je suis ?» On répondit, quelques-uns disent que tu es le prophète Jérémie. Pour d'autres, tu es le prophète Élie. Il arrive souvent aux chrétiens de passer leur temps à écouter les avis de différentes personnes au lieu de chercher à avoir la révélation de ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Moi, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Jésus dit que je suis. Nous devons connaître notre identité. Nous devons savoir que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes des co-citoyens du ciel, une propriété privée de Dieu. Dieu nous a acquis par son précieux sang. Nous devons savoir que nous sommes un sacerdoce royal. En effet, c'est extraordinaire d'être un enfant de Dieu, d'être considéré comme un saint, comme un homme juste. Cependant, il est regrettable de constater aujourd'hui que les chrétiens sont complexés. Si nous connaissons notre identité, nous ne devons pas avoir peur de situations. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a résolu les problèmes de maladie. Il a résolu les problèmes de cancer. Il a résolu les problèmes de tumeur. Il a résolu tous les problèmes. Il a donné la solution pour tout problème d'addiction, de dépendance, dépendance au tabac, dépendance au cannabis, dépendance à la drogue dure, héroïne, cocaïne, alcool. Avant de venir, quand je venais dans la voiture, je suivais les informations. On disait maintenant, le Venezuela est en train d'alimenter la France avec la cocaïne, la drogue dure. Et on a constaté que le taux a beaucoup augmenté. Oui, mais nous sommes là pour annoncer l'évangile à ces gens-là. Que Dieu les aime. Par leurs propres efforts, ils ne peuvent pas s'en sortir. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'y a que le nom de Jésus qui libère. Tout à l'heure, Claude nous a parlé des hôpitaux psychiatriques. Oui, je crois à la médecine, mais laissez-moi vous dire, les médecins sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Tout ne peut pas être résolu toujours par la médecine. Il y a aussi la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je bénis tous les médecins qui sont présents dans la salle, parce qu'ils font un travail remarquable. Sur la croix, Jésus nous a délivrés des péchés de désobéissance, des péchés d'orgueil, des péchés de rébellion, des péchés d'incrédulité, des péchés de pornographie, des péchés de masturbation. Il nous a délivrés de l'emprise du diable. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais à une conférence dans le cadre de ICNEF et l'orateur, c'est un maire qui venait de Rouen. Et je pense que nous le connaissons, ceux qui viennent de IAPM. Alors, il parlait de la dignité humaine. Et il nous a démontré qu'il est peiné de constater que le concubinage est autorisé, le concubinage. Alors, il dit, mais où est la puissance de la parole de Dieu? Matthieu 10, le verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Les enfants d'Israël ne connaissaient pas leur identité. Dieu leur a fait sortir de la terre promise. Il dit, « Je vous donne Canaan. » Mais il ne leur a pas dit ce qu'il allait rencontrer tout au long du chemin. Et il leur a dit, allez explorer Cana. On a pris 12 espions. Sur les 12, 10, ils ont vu que c'était un beau pays où coulait le lait et le miel. Mais il y avait des géants, des Anak, des Étiens, des Jébusiens, tout ce monde que vous connaissez. À cause de cela, ils ont eu peur. Et même déclarent que nous sommes comme des souterrains à leurs yeux. Qu'est-ce que les souterrains peuvent déployer comme force? Mais Josué et Caleb, ils ont dit non! Nous allons nous accaparer de cela. Ce que Dieu a dit est déjà dit. Même si aujourd'hui nous ne voyons rien, ça va tomber. Il dit, nous allons prendre possession de cela. Dieu a besoin de gens qui ont l'audace. Ne nous arrêtons pas à avoir des difficultés. Oui, les difficultés seront toujours là. La Bible dit, celui qui regarde à la tempête ne moissonnera point. Celui qui regarde au vent ne semera point. Nous devons savoir que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. La Bible dit, avec Dieu nous ferons. Nous n'allons pas faire des exploits si nous sommes des peureux. Nous n'allons pas faire des exploits si nous tremblons devant les problèmes. Nous devons toujours avoir la tête haute. David savait qui il était avant d'aller combattre contre David, contre Goliath. Il aurait pu se décourager parce que son frère aîné, l'a découragé. Il aurait pu désister parce que le général d'armée ne l'encourageait pas. Il se disait, c'est une erreur grave, une faute grave si je t'envoie au front sans formation. Il aurait pu désister parce que tout le peuple disait, avez-vous vu avancer cet homme? Mais David savait ce qu'il était. Il connaissait son identité. Il savait que j'avais été oint pour. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. On est oint pour un but. David était oint pour tuer la tête, pour décapiter la tête de Goliath. Il n'a pas regardé à son âge. Il n'a pas regardé à sa taille. Il n'a pas regardé à son apparence. Alors il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec des lances, avec l'épée, avec les javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Nous allons au nom de Jésus. Nous allons au nom de Jésus. Comme Claude l'a si bien dit tout à l'heure, si nous comptons sur nous-mêmes, nous serons déçus. Si nous comptons sur qui que ce soit, nous serons déçus. Mais nous, si nous comptons sur Jésus, nous serons gagnants. La Bible dit, les uns comptent sur leurs chars, les autres comptent sur leurs chevaux. Mais nous, nous comptons sur l'Éternel. Nous comptons sur Jésus. Amen. Alors, la troisième condition, il faut marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Celui qui a la foi ne peut pas se taire devant les situations, devant la dégradation, devant les défis. Nous ne devons pas nous taire. La Bible dit, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Ici, la montagne plutôt est définie comme les épreuves. Si nous avons la foi, nous devons parler. Jésus-Christ est notre modèle. La Bible nous dit, devant le tombeau de Lazare, Jésus avait déjà prédit, annoncé bien avant, quand Lazare est tombé malade, il dit, ce n'est pas une maladie qui lui amènera à la mort. Dès 4 jours après, Marie, Marthe, qui avait une grande foi, mais cette foi s'est retrouvée au bas de l'échelle parce que rien n'arrivait. Il croyait que Jésus allait intervenir très vite, mais quelques jours après, Lazare est mort, on l'a enterré, Jésus ne venait toujours pas. J'aimerais te dire aujourd'hui, Lazare peut mourir, mais les promesses de Dieu ne meurent jamais. Si tu as les promesses de Dieu, ça ne meurt jamais. Quand il est arrivé devant Lazare, le tombeau, il dit, ôtez-moi la pierre. Ils ont hésité, ils sont déjà, ôtez-moi la pierre. Lazare, sors! Voilà un homme de foi. De qui vous avez hérité votre foi? On doit parler, nous devons commander. Nous devons appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. devant la tempête. Jésus a dit, tempête, silence. Devant le vent, il a dit, vent, tais-toi. Il faut que je vous donne encore l'exemple de Josué sur la montagne de Gabaon. Soleil, arrête-toi. Nous devons innover avec notre foi. Nous devons innover. On a déjà arrêté le vent. On a déjà arrêté la tempête. Bon, je caricature, hein. Ça peut symboliser les épreuves, les difficultés, peu importe. Mais nous ne devons pas nous taire. La Bible dit, ayez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Notre foi doit engloutir tous ces traits enflammés de l'ennemi. On nous a parlé d'Élie, Élisée, c'est formidable. Que Dieu te bénisse, Claude. Alors, Élie, il a fermé le ciel. Il dit, pas de pluie. Il a encore prié pour que la pluie descende. Nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi? Nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi? En ce moment, nous nous battons avec Antoine, avec une vision de 1000 églises. Je dis, on va aller même au-delà parce que nous avons la foi. Nous avons la foi. N'est-ce pas, Antoine? Nous avons la foi. Alors, je vais passer à la quatrième condition, avant de terminer, donc l'avant-dernière, parce que je n'aimerais pas abuser de votre temps, on est buté par le temps. Alors, la quatrième condition, nous devons marcher dans l'obéissance et la crainte de Dieu. Si on peut mettre ce verset, Jean chapitre 9, le verset 31, je suis désolé, Jean chapitre 9, le verset 31, la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Puisque la source des miracles, c'est Dieu, alors nous devons être obéissants, connectés à lui, pour recevoir la puissance qui opère le surnaturel. Si nous sommes rebelles à Dieu, si nous ne voulons pas lui obéir, si nous ne voulons pas marcher dans la crainte, dans la sanctification, dans la consécration, qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si nous sommes dans les péchés, si nous sommes, Dieu nous aime en tant que des pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Dieu est le péché. Cela va de soi. C'est vivre la volonté de Dieu, vivre dans la consécration. Si nous voulons vivre le surnaturel, il faut que nous soyons des hommes intègres. Nous n'avons pas évoqué assez, de toutes les personnes, les personnages que nous évoquons, que ce soit Élisée, comme Claude l'a dit, et tous ces personnages que j'évoque, mais ils marchaient dans la crainte. Job était un homme droit, juste devant le Seigneur. Il marchait dans l'obéissance. Nous ne voulons pas payer le prix. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons devenir une nouvelle créature. Comme Christ est mort à ce qui concerne les œuvres de la chair, nous devons mourir à ce qui concerne les œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie. Nous devons devenir de nouvelles créatures, de nouvelles créations. La crainte de Dieu. Malgré que nous prions, nous vivons dans la calomnie, la diffamation, le mensonge, les querelles, les jalousies, les œuvres de la chair. Mais nous ne verrons jamais la main de Dieu. La dernière condition, il me reste 7 minutes. La dernière condition, pour que nous puissions vivre le surnaturel de Dieu, il faut être un homme ou une femme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas des magiciens. Tu fais ça, les choses s'opèrent. Non. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ et un disciple copie son maître en tout. Alors imitons le Seigneur Jésus dans sa vie de prière. Tout ce qu'il faisait était précédé par la prière. La prière faite soit seule, faite soit en groupe. Nous devons aimer la vie de prière. C'est comme ça, Claude nous disait, des réunions de prière. Si nous ne prions pas, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Il y a un prix à payer. Mais bien aimés, puissions-nous avoir une vie de prière intense, régulière et puissante. C'est pourquoi dans Emma, nous devons avoir la particularité de la vie de prière. Dans nos pastorales, nous avons initié des moments intenses de la prière. C'est difficile dans la prière, c'est difficile de réunir les gens. Mais Antoine, il faut nous motiver, nous devons encourager, continuer. Parce que sans la prière, nous ne vivrons pas de miracles. Dans nos églises, sans la prière, nous ne vivrons pas de miracles. Ce ne seront que des paroles. Les gens seront fatigués. En commençant d'abord par nous-mêmes, individuellement, personnellement, chrétiens, pasteurs, serviteurs, nous avons besoin d'une intimité, d'une vie de prière. Nous devons payer le prix pour que les choses changent. J'aimerais m'arrêter là. Mais ce matin, comme tous mes prédécesseurs, nous croyons au surnaturel. Vous et moi, vous croyez au surnaturel. Il y a toujours un commencement dans toutes choses. J'aimerais que ça commence aujourd'hui pour vous. Gloire à Dieu pour ceux qui le vivent déjà. Mais c'est possible. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier.